Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC que vous retrouvez tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team, Stephen Brun, Fred Weiss, Alex Biggerstaff. Bonjour messieurs.
Hello.
Bonjour. Salut mon petit Pierrot.
Vous avez passé une belle semaine de basket?
Oui, très belle.
Ouais, un petit match. Un petit match comme ça en particulier qui vous a plu. Une petite perf.
Moi j'ai vu un beau match de basket.
Highlight.
De Betclic Elite. Un magnifique Limoges Gravelines. C'était fantastique.
Ouais,
plus 52 pour Limoges.
Ah, c'était ironique.
C'était ironique.
Oh, ouais, tu peux mettre en avant.
Il
y a un petit Monaco Asvel qui se profile, qui est sympa là.
Ça peut être pas mal, effectivement.
Moi j'ai vu un très bon Cleveland Utah dimanche soir.
À Cleveland, équipe impressionnante,
ouais.
Cleveland.
Hein. Et Utah, très bon. Utah est allé gagner à Cleveland.
Sans aucune star réelle, c'est-à-dire avec des très bons joueurs, mais qui sont pas du tout starifiés comme les autres.
Exactement.
Est-ce que ça vous dirait.
Avec le probable rookie de l'année, peut-être Evan Mobley.
Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un spécial Cleveland un jour, histoire que personne ne télécharge le podcast?
C'est une idée qui nous trotte dans la tête.
Ça va germer.
J'aimerais bien faire un spécial Cleveland et inviter Jordan McRae, le joueur de Villanova-Lois, qui a été champion NBA avec Cleveland.
Pourquoi pas? Ça serait une excellente idée.
Exactement.
Après,
mais le problème de Jordan McRae, c'est que le mardi, il joue en Eurocup.
Ce qu'il faudrait surtout, c'est que Jordan McRae passe le mot à tous ses potes dans l'Ohio pour qu'on ait quelques téléchargements quand même.
On va la faire en anglais alors.
Oui, il faudrait la faire en anglais, ouais, parce que sinon, si on s'en tient aux propos de Joachim Noah, on risque pas de faire beaucoup de monde. Hein. Alors aujourd'hui, c'est un spécial joueur dominant. Alors normalement, on aurait dû appeler ça un spécial MVP, sauf que des ronchons commencent à dire que c'est trop tôt pour le MVP, mais ça voulait pas dire qu'on va désigner le MVP. On cherche à savoir. Le ronchon, alors il fait un peu plus de 2 mètres. Et c'est un bon shooter qui défendait peu avec un très fort caractère.
C'est difficile à dire qui c'est là.
C'est difficile, il est parmi nous. Hein. Voilà. Je ne donnerai pas plus d'indications par respect pour sa famille. Donc ce sera un spécial joueur dominant. Qui est actuellement le joueur le plus dominant en NBA? On va se contenter de quelques noms. Hein. Stephen Curry, Antetokounmpo, Kevin Durant, Nikola Jokic. Qui est la plus grosse surprise de la saison? Peut-être le futur MVP dans 2-3 saisons, vous allez nous le dire. Et puis dans votre vie, quel joueur vous a le plus impressionné sur une seule saison? Voilà, ça peut être bien sûr Jordan, mais il y en a d'autres. Hein. Des joueurs ultra dominants sur une saison.
Ça peut être Pierre Dorian, la saison 2019-2020 de Basket Time. T'as fait une belle saison, Pierrot.
Ouais, meilleure que celle de cette année, ouais. C'est vrai, c'est correct. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast. Il y a un quiz, bien sûr. Un quiz joueur dominant. Sympa, attends, non, comme thème. Ça change un peu.
Dominant dans le basket, hein. Pas dans la vie privée.
Exactement.
Ah, ok.
Tu pourquoi tu dis ça? Parce que tu estimes que ici on a des joueurs plutôt dominés dans la vie privée. Allez, c'est parti. Basket Time tous les mardis en podcast.
KD mid range. Sure.
Here's Middleton. Giannis trailing the lob. Oh!
Giannis Antetokounmpo over Chris Middleton. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Jokic fakes, spins, double team, gets away, flips it up and in. Curry splits the defense behind the back, fires a three. Oh, he puts it in! What a spectacular move! And it's the largest lead of the game.
Qui est le joueur le plus dominant de la saison? Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller voir les résultats des équipes? Ça fait partie du débat. Hein.
Un petit peu quand même.
Voilà, est-ce qu'il faut avoir une influence sur les résultats de son équipe pour être considéré comme le joueur le plus dominant? Ce qui va forcément avoir une influence sur le débat. Qui est le joueur le plus dominant, Fred Weiss, cette saison?
Ouais, c'est super difficile comme question, comme ça, à brûle pour point. Je dirais KD. KD, parce que tu lui amènes n'importe qui en face. C'est un petit, il va le poster. C'est un grand, il va l'écarter. Honnêtement, pour moi, c'est le joueur qui apporte le plus, qui est un danger permanent, qui est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter, parce que j'imagine qu'on va évoquer le cas Curry. On l'a évoqué, ce cas, en disant, oui, quand il a un meneur avec une mauvaise match-up, il peut le gêner un petit peu. Donc quand on est vraiment basé sur le shoot, c'est plus compliqué. KD, il sait tellement tout faire que c'est compliqué de passer à côté. Après, il y a Yanis, Jokic, bien sûr. Mais pour moi, si je devais en choisir un, ce serait KD.
C'est Kevin Durant. Alex ?
Eh bien, si je devais répondre Kevin Durant, ce serait la question qui est le meilleur attaquant du monde. Donc, ce n'est pas Kevin Durant pour moi, c'est Yanis Antetokounmpo, le joueur le plus dominant à l'heure actuelle.
Quelle distinction tu fais ? Enfin, pourquoi tu fais cette distinction plutôt ?
En fait, quand on a posé la question sur le mot dominant, je me suis dit, c'est quoi déjà le mot dominant ? C'est qui surpasse les autres, qui permet de prendre le dessus sur tout le monde. À ce niveau-là, je suis obligé de départager. Steph Curry, Fred en a parlé. Pour moi, c'est le meilleur shooter, voire le joueur peut-être le plus spectaculaire, celui qui donne envie aux gens d'aller le voir. Kevin Durant, pour moi, c'est le meilleur attaquant. Nikola Jokic, c'est peut-être l'intérieur le plus complet. Dans ces cas-là, qui est le plus dominant ? Bah, qui est le plus dominant des deux côtés du terrain ? Qui peut faire la différence à tout moment ? Qui a besoin que son équipe se repose sur lui ? Bah, c'est le champion NBA en titre, c'est Yanis Antetokounmpo.
C'est-à-dire que pour toi, tu mets une dimension physique ?
Absolument.
Ok. Après, moi, tu sais que la domination, avant tout, c'est mental. C'est-à-dire que tu peux peser 50 kilos dès lors que tu t'habilles en cuir avec un martinet, tu peux être dominant.
Mais il a été dominant mentalement sur les finales.
Ça t'est déjà arrivé ça dans les soirées, Kiro ?
C'est un peu chelou par rapport à la fin de tout à l'heure déjà.
J'essaie de voir qui aurait pu se sentir concerné par cette anecdote, mais manifestement, vous avez bien joué votre rôle.
La domination, moi, je la prends pas dans le même sens qu'Alex parce que. Le vrai problème que j'ai avec Yanis Antetokounmpo, encore, bon, c'est un problème relatif.
Un problème de riche.
C'est que on s'aperçoit qu'Yanis, quand il n'y a pas Jrue Holiday ou quand il n'y a pas Chris Middleton, les Bucks sont un petit peu plus dans le dur. Les trois ensemble, on n'a pas connu la défaite depuis le début de saison. Et
c'est une excellente stat. Les trois ensemble n'ont pas connu la défaite.
Non, ils n'ont pas perdu un seul match quand les trois ont joué ensemble. Malheureusement, Jrue Holiday et Chris Middleton ont souvent été absents et les Bucks ont lâché des matchs. Et c'est pour ça que moi, la bascule se fait vers Steph Curry, qui, Klay Thompson n'est toujours pas revenu. Jordan Poole, Andrew Wiggins sont des bons joueurs, mais sont pas du niveau d'un Chris Middleton ou d'un Jrue Holiday. Et malgré tout, Curry domine la ligue individuellement et domine la ligue collectivement. C'est pour ça que je vais aller sur Steph Curry, même si je trouve qu'il y a une médiatisation hors norme autour de Steph Curry, que tous ces tirs qu'il est capable de mettre, il en a encore mis un dans la nuit de lundi à mardi du milieu de terrain sur une jambe contre Orlando. Toutes ces actions font le tour du monde et donnent une médiatisation supplémentaire à Steph Curry. Malgré tout, on est quand même sur un mec qui est troisième scoreur NBA. C'est un mec qui a mis qui a dépassé le 100 tirs à 3 points le plus rapidement sur une saison. Il est à 16 tirs de dépasser Ray Allen, 16 tirs à 3 points de dépasser Ray Allen sur le nombre de tirs à 3 points all time. Les Warriors sont invaincus à domicile. Il y a beaucoup de choses qui font dire que quand même Steph Curry est le joueur le plus dominant de cette première partie de saison.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait de Nikola Jokic, Fred ?
Moi, sur l'évaluation. Alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on considère comme dominant. Nikola Jokic est le joueur qui a la meilleure évaluation. Donc, il concrètement apporte
de l'histoire. Pour l'instant, il a 33 de PER, qui est le Player Efficiency Rating. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'NBA.
Numéro 1. Et donc, effectivement, on peut considérer qu'on est dominant quand on apporte dans tous les secteurs de jeu. Après, Jokic, il a une problématique défensive, même s'il la compense un petit peu. Il a quand même cette problématique défensive qui fait que d'un côté du terrain, il est beaucoup moins performant. Mais si on parle d'efficacité et de dominance, Jokic, il prend dans le débat, forcément.
Après, il paye les résultats de son équipe. Aussi. Denver, ouais, l'équipe la plus malchanceuse de la ligue.
Mais là, on parle MVP ou on parle dominance ?
Domination, plutôt, non ?
Parce que moi, j'ai l'impression de vous entendre plus sur qui apporte le plus à son équipe, en fait.
Non, mais sur Jokic.
Ça va un peu ensemble, non ?
La question le plus dominant, tu peux considérer que le plus dominant, ça peut être le MVP.
Je pense que c'est délicat quand même de dire d'un joueur qui ne fait pas gagner son équipe qu'il est le plus dominant. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas comparer Jokic à Westbrook dans un autre style, à d'autres endroits du terrain ?
C'est pas les mêmes critères parce que Jokic, il a une équipe où le porteur s'est pété. Tous les mecs sont pétés à Denver. Alors, pour moi, ils payent son bilan. Ils ont un bilan négatif les Nuggets depuis le début de saison.
Oui, mais est-ce que je sais ce que tu vas me répondre, mais les Warriors aussi quand même un grand absent. Ils ont des joueurs après Curry qui sont pas du niveau. Tu l'as dit toi-même des Bucks ou peut-être même des Nets, hein. Oui, certainement des Nets. Ouais. Donc finalement, ce que fait Curry avec les Warriors, Jokic ne le fait pas. Finalement.
Non, Jokic le fait pas, mais le problème des Warriors, c'est qu'ils ont un grand absent qui est Klay Thompson, mais il a pas débuté la saison. Le problème de Denver, c'est pas que le Porter Junior a débuté la saison, il s'est pété le dos, tous les mecs se pètent.
À la main, il y a un problème.
À la main, il y a un vrai problème. Jamal Murray est pas là et doit faire son retour bientôt. C'est difficile de comparer l'effectif des Warriors avec l'effectif des Nuggets. L'effectif des Warriors, depuis le départ, ils savaient que ça allait être comme ça. Klay allait pas être là et James Wiseman allait pas être
Mais des grands joueurs, qui n'ont pas fait gagner leur équipe dans des circonstances à chaque fois différentes, il y en a plein. Je veux dire, Harden est toujours dans ce cas-là. Pourtant, tu pourrais estimer, bon, peut-être pas en ce moment, mais qu'à un certain moment de sa carrière, il était dominant. Mais sauf que l'était-il vraiment ? C'est-à-dire que tu me dis l'effectif, ok, Denver n'a pas de chance. Mais je veux dire, à quel moment, depuis que Jokic est à Denver, ils sont considérés comme des prétendants au titre ? Pour l'instant, ça n'arrive pas.
Une seule année où ils ont vraiment.
Ils ont tâté de la finale de conf avec Nikola Jokic. Quand il y avait Nikola Jokic, Jamal Murray et compagnie, ils ont tâté de la finale de conférence. Alors Denver aujourd'hui fait partie clairement des prétendants à l'Ouest pour le top 4.
Pour moi, c'est pas le cas actuellement. Je pose cette question parce qu'il y en a deux qui sont du même niveau peut-être que Curry, Giannis et KD. C'est Jokic et Doncic. Est-ce qu'on n'attend pas plus d'eux que ce qu'ils font cette année ? Voilà, c'est tout, c'est la question que je vous pose.
Honnêtement, alors, pour revenir sur Jokic, je vois pas comment il pourrait faire plus que ce qu'il fait cette année.
Il est au max,
il le disait. C'est...
Il est à 45%, je crois, à 3 points sur les 10 derniers matchs.
C'est des scores historiques. Donc,
après, le facteur, c'est comment t'es entouré aussi.
Voilà, c'est ça. À un moment, tu parles de domination. C'est comme si tu disais que Charles Barkley n'avait pas été un joueur dominant.
Même Jordan, il a eu des joueurs d'un niveau incroyable autour de lui.
Bien sûr, mais ce qui est dur, c'est que Charles Barkley, il a pas gagné de titre. Dans ce cas-là, tu peux considérer qu'il n'est pas dominant. D'après la façon de penser de Pierre.
Après, on est sur 24 matchs. Là, on est obligé des garçons sur 24 matchs. On sait pas du tout ce qui va se passer par la suite. Maintenant, si tu veux parler de Luka Doncic, moi, j'en attends un petit peu plus de Luka Doncic. Un garçon qui est capable de mettre 5, 6, 7 tirs à 3 points et qui a 65%, 66% dans ses francs. Pour moi, ça fait tâche. Et surtout, il y a un truc qui m'exaspère chez Luka Doncic, que j'adorais et qui est en train de m'énerver, c'est que c'est une chialeuse.
Son coach a recadré par rapport à ça. Son coach commence à le recadrer.
C'est insupportable. T'as déjà vu un match des Mavs ? Il n'y a pas une action où il ne chiale pas auprès de l'arbitre.
Non, mais en équipe nationale, c'était déjà le cas. C'est ça que ça devient vraiment pénible, effectivement.
C'est insupportable. C'est insupportable. Toujours. Des fois, il marque les paniers, il n'y a personne autour de lui, il regarde l'arbitre. And one, ref. Il n'y a personne autour de toi qui t'a touché. Donc, ça devient pénible. Mais Luka Doncic a des vraies carences, notamment sur. Meneur de jeu, tu peux pas être à 66% lancé franc, c'est pas possible. Mais Steph Curry, t'as 93.
C'est de la négligence, c'est quoi? C'est.
Je sais pas, de la fatigue.
Manque de motivation, c'est quoi? Est-ce qu'il travaille autant
c'est
dernièrement
vrai que. Alors, c'est une impression visuelle qui est peut-être totalement injuste.
Il a le même physique que toi, c'est ça?
Pas tout à fait quand même. Non, j'ai l'impression qu'il est nonchalant quand je le vois jouer. Quand je vois Kevin Durant, j'ai pas la même impression, tu vois. Je vois. Non, bah, je suis désolé.
Il y a une certaine forme de facilité chez les deux. Hein.
De facilité, mais c'est pas dire nonchalant. Moi, j'ai l'impression, Doncic, qui gagne ou qui perd, j'ai l'impression qu'il s'en fout.
Quand tu regardes Steph Curry,
c'est totalement faux.
Il y a pas une certaine forme de nonchalance quand tu regardes Steph Curry.
De facilité.
Non, mais de facilité. Des mecs qui ont autant de talent, autant de facilité, c'est logique qu'ils paraissent nonchalants par moment. C'est absolument logique.
Quand tu vois Yanis, c'est pas sur Yanis, tu sais qu'il va.
Yanis, sinon, il a aucune chance de faire quoi que ce soit. Bah, tant mieux pour lui, tant mieux pour son équipe. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas tant dans l'attitude de basketteur, c'est plus dans sa vie en général, dans ses réactions, dans la façon dont il vit les victoires, les défaites. Oui, un peu. Oui.
Il est jeune encore aussi.
Après, c'est vrai qu'il a toujours le smile.
T'as l'impression que ça coule, quoi, que c'est un match de saison régulière. Allez,
on s'en tape. C'est ça que je veux dire.
Exactement.
Ouais, écoute, je trouve que ça fait partie du caractère. Après, c'est un mec qui est facile. T'as pas l'impression qu'il
était déjà comme ça au Real en sélection.
Après, c'est vrai que le fait qu'il aille à deux à l'heure, qu'il fasse des appuis décalés à deux à l'heure, te donne l'impression qu'il est pas à fond. Mais je crois que c'est son style de jeu qui est comme ça, comparé à Yanis qui a besoin, lui, bien sûr, d'aller en forceps.
Donc KD. Pour KD pour Fred, Antetokounmpo pour Alex,
des deux côtés du terrain.
Stephen Curry pour Stephen, bien entendu. D'ailleurs, si on fait un point sur la course au trophée pour le coup MVP, est-ce qu'il y a déjà, il y en a déjà un qui se détache ou pas?
Pour MVP, c'est Stephen qui prend la tête, hein, mais Stephen Curry.
Normal.
Bah, sans l'équipe qui gagne, on l'a dit, hein, il shoot d'où il veut. Il y a le record de Ray Allen qui va faire tomber d'ici un match ou deux. A priori, par rapport au plus grand nombre de tirs à 3 points réussis.
Il va falloir qu'il mette 16 tirs à 3 points pour prochain match.
Franchement, avec lui, t'imagines, il fait ça. Le jour où il dépasserait Allen, il fait ça.
Sachant que le record, c'est Klay Thompson avec 14 tirs à 3 points sur un match.
Juste pour compléter, voilà, Steph Curry, il emmène Golden State au niveau où Golden State était il y a quelques années. On les retrouve à leur meilleure forme grâce à Steph Curry. Dernièrement, sur le fameux Power Ranking, il devance Kevin Durant, qui est le meilleur scoreur de la Ligue, qui a été, comme Steph Curry, joueur du mois d'octobre et novembre, qui a le meilleur pourcentage en carrière au tir. Je pensais même pas que c'était faisable, ça, Kevin Durant, qui était tellement fort. Il a 54% au tir.
C'est fou, à son âge.
C'est absolument incroyable. Il continue d'augmenter. Et puis sur le podium, c'est Giannis Antetokounmpo qui est troisième devant Jokic et Chris Paul, apparemment, sur les tendances. Un petit mot juste pour souligner Ja Morant, dont on n'a peut-être pas parlé, mais qui me laissait. mais qui sur le début de saison était presque dans les mêmes catégories que ces garçons.
Et bah justement, on va, oui.
Il va y avoir un débat un jour qui va devoir se poser.
On va le faire.
Non, pas tout de suite. Qui est le meilleur entre Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo? Ah, il va arriver le débat. Bon.
Ah bon, il va arriver?
Il va arriver. Quel est le joueur le plus dominant des deux?
Ah,
c'est j'adore. Pas du tout les mêmes registres, j'aime, mais quel est le garçon qui a le plus d'impact sur son équipe? On se le fera un jour, celui-là.
Bah, après, il faut qu'il dure sur une telle longévité,
oui.
Giannis.
Oui, mais la vraie question, est-ce que si KD était aux Bucks, est-ce que Milwaukee aurait été champion?
Peut-être.
T'aimes,
oui,
bien le basket science-fiction comme
y a
ça.
Pas de... Alors là, tu vois, il n'y a pas de réponse a priori. Hein. Il n'y a pas de nom a priori, quoi.
De rien, c'est possible.
Je veux dire, Giannis nous a étonné, enfin m'a étonné l'an dernier, mais tu peux
c'est
pas.
C'est vrai que t'as jamais été un grand fan.
Non, moi je suis très clair. Hein.
Les mecs qui peuvent pas tirer à plus de 4 mètres, c'est pas ton dada.
J'avais des doutes, parce que j'avais des doutes sur un mec quand même un peu maladroit, comment il peut emmener son équipe à un titre. Mais j'ai dit, j'attends de le voir. Et je l'ai vu, bah bravo. Écoute, il a, avec ses qualités, détruit tout le monde, donc bravo. C'est tout.
Bravo.
Il n'y a plus de discussion là pour le coup.
C'est beau ce que tu fais sûr.
Et alors, tu faisais référence à Jamorant. On va parler de ces joueurs qui sont en train de crever le plafond justement.
Bridges out of the corner. Wow, just turn and fire. Ant off the feed and Anthony Edwards showing that Ant can kill. Wow, nobody in this building can believe it.
Morant against Hartenstein takes him inside, goes to the goal and finishes.
Alors, il y a ceux qu'on attendait et ceux qu'on attendait moins, mais qui sont quand même en train de faire une saison extraordinaire. Qui est la plus grosse surprise pour vous cette saison? Trae Young, DeMar DeRozan, je ne sais pas si on peut parler de surprise, mais en tout cas, ils sont sur des standards incroyables. Jamorant, Miles Bridges, Anthony Edwards, il y en a peut-être d'autres pour vous. Puis on pourra dire un mot aussi de ceux qui surprennent dans l'autre sens, hein, qu'on attendait peut-être un peu plus haut. Tiens, j'ai commencé par Fred tout à l'heure, Steve.
Écoute,
il y en a un dans les noms que j'ai cités qui t'impressionne plus
moi,
que.
Moi, j'ai envie de citer un garçon. J'ai envie de citer un garçon que t'as pas cité, Pierrot. Alors, j'ai envie de parler de la Melo Ball. Parce que ce que fait ce garçon sur sa deuxième saison NBA, il a 20 points, 7 rebonds, 8 passes, 39% à 3 points dans une équipe qui gagne.
La Melo Ball, meneur de Charlotte.
Meneur de Charlotte dans une équipe qui gagne, dans une équipe qui est plaisante à voir jouer, où il y a énormément de spectacles. Il a mis 36 points, 9 rebonds, je crois, 6 passes.
On dirait que tu parles de mon équipe fantasy.
Quand t'es magnifique. Contre les Bucks, c'est comme toi avec Giannis Antetokounmpo, j'étais très sceptique sur ce garçon-là parce qu'une énorme hype de la famille Ball. Je me suis dit, ça y est, encore un mec.
C'est les enfants qu'on a
oui, qu'on a survendu, qu'on a starifié
avant qu'ils aient fait quoi que ce soit.
Exactement.
C'est, ça,
c'est pour ça que j'ai toujours
bravo
beaucoup,
à lui. Hein.
J'ai toujours beaucoup de doutes là-dessus. Et finalement, le gamin, bah, il confirme. Il est meneur de jeu, il finit au cercle, il a une vraie, vraie qualité de passe. Il trouve des passes comme rarement on peut voir chez un meneur de jeu. Il est spectaculaire. Il a une mécanique de tir un peu étrange, mais il met dedans. Et je trouve ça très fort. Surtout, faire gagner son équipe. Bravo. Bravo à la Melo Ball.
Donc, toi, c'est la Melo Ball la plus grosse surprise de la saison, Alex?
Bah, c'est son coéquipier. Miles Bridges, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Après, sur la Melo, je me posais la question si Lonzo a vraiment pas servi dans la carrière de son frangin de faire tout subir auprès de son père et justement, ensuite, voilà, paratonnerre pour son frangin. Mais je choisis Miles Bridges parce que vraiment, c'est un garçon qui était très bien coté à sa sortie de fac à Michigan State. Mais quand il est arrivé en NBA, on savait pas trop où le placer. Déjà, il y avait un problème sur sa position, ce qu'on dit les tweeners, c'est-à-dire un peu perdu entre le poste 3 ailier, poste 4 ailier fort. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités athlétiques, on le voit dans les top 10 au niveau des dunks à chaque fois. Sans doute l'un des meilleurs dunkers de la ligue, mais c'est un garçon qui avait besoin de prouver en défense, qui avait besoin de prouver sur sa qualité de shoot avec régularité, et c'était pas du tout le cas sur sa première saison NBA, ses premières saisons NBA. Et en fait, quand je le vois cette saison attaquer tambour battant, je crois qu'il fait 3 matchs au moins à 30-10 dès le début de saison, on se dit waouh, il y a Jamelo Ball qui est déjà en place, mais alors si Miles Bridges devient un garçon capable d'aller chercher un poste All-Star, hein, on va en parler honnêtement. Charlotte a des plutôt bons résultats. Voilà, pour moi, Miles Bridges, c'est le chaînon manquant qui manquait autour de la Melo Ball. Et je suis vraiment agréablement surpris que ce garçon ait passé ce gros cap.
Et c'est un garçon qui a relégué un petit peu dans l'ombre Gordon Hayward.
Totalement.
Miles Bridges, Gordon Hayward qui est All-Star avec Utah. Gordon Hayward est aujourd'hui la troisième option des Hornets derrière la Melo Ball et derrière Miles Bridges. Miles Bridges est le garçon qui joue le plus d'isolation du côté des Hornets. C'est celui à qui on donne la balle dans les moments importants. Il est monstrueux.
Et il se renouvelle bien dans son jeu. À chaque fois, il y a quelque chose d'atypique.
Fred.
Mais on parlait de Ball. Ben justement, moi, j'ai choisi un joueur qui a annoncé de la couleur depuis le début de saison et qui pour moi, m'a surpris parce qu'assumer ça à ce point, c'est incroyable. Tyler Hero. Mm-hmm. Pour moi, ce qu'il fait, c'est fantastique parce qu'il a annoncé qu'il serait le meilleur sixième homme Il a progressé de façon incroyable. Il était à 15 points l'année dernière. Il est à 21 maintenant, alors qu'il a gagné que 3 minutes de temps de jeu. Il est meilleur à la passe. Il est meilleur au rebond. Il a gagné 3% au shoot à 3 points. et son équipe est quatrième à l'Est. Honnêtement, ça m'a impressionné. Le mec qui est arrivé en début de saison, il a dit je veux être meilleur sixième homme.
Et tout le monde s'est moqué.
Et tout le monde s'est moqué. Et le mec est
pourquoi
là.
Pourquoi tout le monde s'est moqué? Il était pas mal déjà l'an dernier.
Il se mettait surtout dans une liste de oui, garçons oui. d'une autre catégorie. Enfin, en début de saison, je sais plus exactement quel joueur il citait, mais. Peut-être pour extrapoler, il devait y avoir du Steph Curry
et du Trae Young.
Il s'est pas comparé à Boris Yo quand même.
Non,
il n'est pas lissé, il a compris quand même.
Mais il s'est pris des moqueries en tout cas.
Il s'est pris des moqueries, le mec sort du banc, il apporte énormément. Sur le dernier match, il perd effectivement contre les Grizzlies, mais il est devant Lowry, Butler et Duncan Robinson. Il met 24 points, 4 passes, 3 rebonds. Il a dit un truc, il l'a assumé. Pour moi, c'est hyper impressionnant.
You need another hero. Pat, c'est ça.
Yeah, we need it.
Est-ce qu'on peut parler de ceux qui déçoivent? Julius Randle.
Il y a des mentions quand même dans les matchs.
Il y a des mentions, alors vas-y.
Anthony Edwards pour cette deuxième saison avec Minnesota qui est monstrueux. 22 points, 6 rebonds, 4 passes. Et il y a un autre meneur de jeu, Cole Anthony, du Magic d'Orlando, le fils de Greg Anthony. T'as connu Greg Anthony, meneur des Knicks à l'époque?
Ça me dit rien.
Bon, bah, il est meilleur que son père. Cole Anthony, c'est un garçon qui est spectaculaire avec des dreadlocks. Il a 20 points, 6 rebonds, 6 passes pour sa deuxième saison. Il a augmenté toutes les stats. Il fait des vrais cartons.
Qui était injury prone en plus à son arrivée à NBA. Hein.
Jordan Poole est fantastique avec les Warriors. Et puis DeMar DeRozan, même si c'est pas une grande surprise, il fait quand même sa deuxième meilleure saison chiffrée en carrière.
Il fait 5 points de plus que la saison dernière.
C'est incroyable quand même.
Dans une équipe où il y a déjà un leader qui est Zach LaVine, ils ont deux mecs à plus de 25 points de moyenne, les Bulls. Et DeMar DeRozan, malgré tout, devient le leader silencieux de ces Bulls.
Juste en vite, à Tyrese Maxey, Dejounte Murray de San Antonio et Oji Anunoby aussi de Toronto, qui sont tous dans des performances incroyables.
Et DeMar DeRozan, comment. Enfin, je connais pas du tout l'histoire du transfert, mais les Spurs, ils sont pas complètement troués là sur cette histoire?
Ça a pas trop matché à San Antonio avec Pop. DeMar DeRozan a voulu rentrer dans le moule des Spurs. Lui et Aldridge d'ailleurs ont été des demi-échecs quand même à San Antonio.
Parce que San Antonio, c'est pas fantastique là quand même.
Hein. Début de reconstruction, ça marche.
Ils sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Dejounte Murray est fantastique.
Il y a des joueurs Elton qui sortent.
Johnson, Lonnie Walker, il y a une bonne
Jacob Pertl.
L'Autrichien, Jacob Pertl. Ils ont des bons petits jeunes à San Antonio.
Il y a des bons poignets d'amour. Donc, est-ce qu'on dit un mot des surprises, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de ceux qui déçoivent? J'ai noté Julius Randle quand même, non?
Ouais.
Même New York, globalement.
On a mis la barre si haute la saison dernière, dans le début
de saison.
C'est
très décevant, non?
Les Knicks sont dans une brave galère, mon grand.
Alors, il y avait cette histoire, moi,
on l'avait dit en début de saison. Soit ça match, soit ça match pas, mais sachant que quand t'as un coach qui est supposé être défensif et qui d'un seul coup se retrouve avec des joueurs plutôt offensifs, et ben ça peut être très compliqué.
Je me moque pas de toi, Fred, hein, c'est notre producteur qui me dit qu'il faut qu'il rappelle Kylo Quinn. Mais je suis pas sûr que ça règle leur problème.
Remarque, ça manque de soutien. Hein.
Expliquez-moi un truc, je vous ai entendu dans ce podcast cette saison, mais voilà, je vous avoue que je suis largué, me parler d'une nouvelle règle qui empêche Julius Randle d'être aussi efficace que l'an dernier.
C'est pas une nouvelle règle. Julius Randle s'est plaint dans une conférence de presse en disant je suis toujours plus costaud que mes adversaires et on me donne jamais de faute parce que les arbitres me disent t'es capable de jouer avec des contacts comme ça parce que t'es plus costaud que les autres.
J'ai l'impression d'entendre Dwight Howard il y a des années.
Exactement. Alors déjà, un arbitre qui te dit que même s'il y a faute, t'es capable de jouer, déjà c'est une erreur d'arbitrage, parce que s'il y a faute, il y a faute, peu importe, tu passes 25 kilos ou 125 kilos, ça c'est une erreur d'arbitrage. Après, je pense que Julius Randle, il se réfugie derrière des choses un peu plus faciles. Il a perdu son statut de All-Star cette saison, mais c'est tout l'environnement de Knicks qui fonctionne mal. Kemba Walker a été mis de côté, il me fait de la peine, il est devenu ball boy. Kemba Walker, il fait des passes à l'échauffement pour ces mecs, il joue plus une minute. Ball boy.
Moi, si je devais mettre un mec qui m'a déçu, justement, c'est Kemba Walker, parce que je pensais justement que lui, c'était un peu la galère, il voulait se relancer, il arrivait chez lui ou quasiment. Et tu t'es dit, là, le mec, il pour un contrat un peu réduit, j'allais dire, c'était plutôt une belle affaire pour New York, il va se relancer, et finalement, il se relance pas du tout. Tu sens que le mec a encore ses problèmes de genoux. Honnêtement, lui, c'est une vraie déception et c'est vrai que c'est presque inquiétant.
Et ton chouchou Domantas Sabonis, te déçoit pas un peu?
Un petit peu, mais bon, il a fait quelques stats là dernièrement.
Il a fait un 30-10 il y a pas longtemps.
Totalement sans saveur. Indiana,
ils ont beaucoup de force sur les postes extérieurs. Malcolm Brogdon, Chris Duarte, qui est un très bon rookie.
Ils ont pas
aussi
mal de blessés.
Caris LeVert, donc le secteur. Et enfin, si on parle de déception, Miles Turner. Excusez-moi de vous déranger, mais. Miles Turner, mais.
Tu peux y aller, t'es chez toi ici.
Il peut faire partie des flops de la saison. Lui qui se prétend être meilleur défenseur de la ligue. ligue.
Il y a beaucoup qui se prétendent être beaucoup de choses dans cette ligue quand même.
Ouais,
c'est quand même
et qui sont pas grand chose.
Autant il y a la ligue des talents avec la Ligue 1, autant il y a la ligue des boulards en NBA quand même.
C'est pour ça que je parle de Tyler Hero, parce qu'il y en a plein qui se prétendent et qui n'assument pas, et lui il a réussi à assumer. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant tout à l'heure.
Basket Time tous les mardis en podcast. On parle de domination, mais c'est l'heure de parler de domination historique.
MJ. Oh, Harry did it. Michael shakes the finger.
Portland has three timeouts left. The Lakers have two. Bryant to Shaq.
Otis Thorpe working on coming.
Hakeem Olajuwon showing the spin.
Nothing Patrick can do.
Shaquille fadeaway.
Alors historiquement, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné sur une saison de NBA? J'ai hésité à faire ce débat parce que je me suis dit, bon bah tout le monde va dire Jordan quoi, Jordan. Mais sur une seule saison, peut-être qu'on peut trouver encore plus impressionnant que Michael Jordan, non? Est-ce que quelqu'un n'a pas pris Michael Jordan? Levez le doigt. Fred et Alex. Alors, est-ce qu'on considère ça comme de la provocation, de la rébellion ou de l'originalité? C'est à vous de me convaincre. Alors, Alex, vas-y, démarre.
Moi, j'ai pris la saison 99-2000. Donc oui, ça ne sera pas Jordan pour moi. C'est Shaquille O'Neal.
Ah.
Mais je pars peut-être dans la continuité de ce que tu m'as dit tout à l'heure, Pierre. Oui. C'est-à-dire que domination, c'est peut-être vraiment puissance pour moi.
Mais alors,
peut-être moins mentalement.
Honnêtement,
il y a les chiffres aussi.
S'il y a un joueur qui symbolise la domination, c'est bien lui.
Et
pour
oui,
le coup.
Voilà. C'est tout ça, simplement c'est bien, ouais. pour ça, parce que quand on pense à Shaquille O'Neal, on pense domination. Et surtout, à cette époque-là, Shaq qui va ramener le titre à Los Angeles tout d'abord, où ça datait depuis 88, c'est la plus longue période sans titre pour les Lakers depuis qu'ils sont installés à Los Angeles entre 88 et 2000. Donc, il ramène ce titre-là avec 30 points de moyenne, plus de 13,5 rebonds, 3,8 passes et 3 contres en moyenne par match. C'est la stat qui m'a peut-être le plus choqué chez Shaquille O'Neal, qui n'a jamais été réputé un excellent défenseur et encore moins un excellent contreur. Et pourtant, 3 contres en moyenne par match à 57% aussi de réussite au tir. Tout simplement, niveau palmarès, c'est complètement dingue ce qu'il fait cette saison-là aux côtés de Kobe Bryant, faut-il le rappeler. Champion NBA, MVP des finales, MVP tout court de la saison régulière, All-NBA First Team, All-Defensive Second Team, c'est peut-être ce qui va lui manquer sur la fin pour vraiment, voilà, All-Star, et MVP en plus du All-Star Game et leader au scoring du championnat. C'est correct comme tu
ça
dis.
Fait une belle petite saison quand
sachant
même.
Que quand on prend saison, Pierre, on prend pas juste saison régulière.
Ah non, saison.
On prend les playoffs, on en rajoute une couche, 31 points de moyenne, plus de 15 rebonds sur les playoffs, et il va monter en finale
très violent, ouais,
à 38 points de moyenne et 17 rebonds en finale avec 61% de réussite. Bref, il va exploser tout le monde cette année-là. 9 matchs à plus de 40 points et le jour de son anniversaire contre les Clippers, il les explose, ce qui fera plaisir à tout fan des Lakers. 61 points, 23 rebonds. Happy birthday face à Lamar Odom qui était rookie de l'année.
Very good performance, Alex. You've been very good. Et tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de Jokic, je me suis fait la réflexion. Est-ce que finalement, le Shaq a pas révolutionné Orlando bien plus que Jokic Denver sur les premières années? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'a pas transformé?
Il y avait un duo avec Penny aussi.
Oui, c'est ça.
Qui change un peu la donne.
Mm-hmm. T'es pas d'accord?
Tu parles de quoi, de 2000?
L'impact du Shaq sur Orlando n'a-t-il pas été très au-delà de celui de Jokic sur Denver? C'est ça que je me demandais tout à l'heure.
Bah quand même, quand t'as des récompenses collectives, le Shaq, il a.
Donc, non, mais c'est pour ça que.
Il est en Orlando. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, le plus gros impact d'un joueur dans une équipe, c'est LeBron, à Cleveland. Je suis désolé.
Quand c'est le joueur que t'estimes le plus dominant?
On
est sur une saison.
Ce débat là, c'est simple.
Je pense que LeBron est le joueur qui a révolutionné Cleveland. Cleveland était une équipe des bas-fonds. Il est arrivé à Cleveland, il les a emmenés.
Est-ce que là, pour notre débat, tu veux parler de LeBron James, tu parles de qui?
Moi, je suis obligé de plus. S'il n'y a pas Michael Jordan dans ce débat-là, je suis désolé, il faut arrêter l'émission.
On arrête, on met la clé sous la porte, on dit c'est bon, on a fini, ouais, c'était la dernière.
Non, Michael Jordan, saison 90-91, le premier titre de Jordan, il fait tomber l'ennemi juré, les Pistons, il les sweep en finale de conférence. Et ça nous rappellera ces images de The Last Dance où les Pistons se barrent avant la fin du match, la tête baissée pour pas subir l'affront de Jordan. En saison régulière, c'est 31 points, 6 rebonds, 5 passes. 2 interceptions, 1 contre. On parlait de Kevin Durant tout à l'heure et c'est 54% au tir. Jordan était à 54% au tir cette saison-là. Si on compare avec les stades d'aujourd'hui,
Jordan, il serait meilleur scoreur, meilleur intercepteur, top 15 de pourcentage au tir. Ce serait le seul arrière dans ce classement. Et puis, bah, les Bulls ont fait une saison à 61 victoires. Ils ont été champions NBA. Ils ont battu les Lakers 4-1. Jordan, cette saison, c'est MVP des finales, MVP de la saison, NBA First Team, Defensive First Team, meilleur scoreur de la saison. Et sur la finale, Jordan joue meneur de jeu face à Magic. Il finit avec des stats hallucinantes. 31 points, 6 rebonds, 11 passes décisives, 3 interceptions, 1,4 contre par match. Tout simplement une saison de mutants.
Ok. Fred, alors là,
pas
Fred.
Pas convaincu, toi.
Ah non, mais là, j'ai dit d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a vraiment débat?
Ok.
Donc, t'as pas besoin de me convaincre. C'est normal. De toute façon, c'est même pas une opinion, non? Je pense
oui.
que c'est assez admis par tous. Alors, Fred, là, la tâche est difficile parce que je pense que le meilleur contender, c'était Shaquille O'Neal, a priori. Donc, est-ce que t'as trouvé quelqu'un d'autre?
Bah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Hakeem Olajuwon. Saison 93-94. Alors Jojo est en retraite évidemment, mais Hakeem a envie d'être champion NBA. Il a envie d'en profiter, justement qu'il soit pas là, même si Chicago fait pas une si mauvaise saison que ça. Bah y a pas Jojo, c'est pas la même. Et donc il va tourner pendant cette saison à 27,3 points, 11,9 rebonds, 3,6 assists et alors bien plus que Shaquille O'Neal, 3,7 contre par match. D'accord. Donc c'est déjà une saison incroyable. Donc MVP de la saison régulière normalement et comme on le disait 3,7 contre, il devient aussi meilleur défenseur de la saison. D'accord. C'est quand même eu des années où il y avait des vrais big men en face, donc il domine absolument tout le monde. Il est incroyable sur les 80 matchs, il fait 63 double-double et il est à 28 matchs à plus de 5 contre. D'accord.
Juste 28 matchs à plus de 5 contre. Ouais, c'est joueur chiant quoi.
Ça commence à être vraiment bien bien relou. Et il va jouer les finales contre Patrick Ewing, quand même qui est un joueur monstrueux. Il le concasse. Il fait ce qu'il veut avec lui. Il finit MVP des finales avec presque 27 points, 9 rebonds, 3,6 passes et 4 contre de moyenne. D'accord. Il fait une saison absolument incroyable parce qu'il est MVP, Defensive Player of the Year. Et MVP des finales, le seul qui a réussi à produire ça sur une saison incroyable, dans les mémoires de tout le monde. Et juste pour se rappeler, l'année suivante, il a concassé le petit et le jeune Shaquille O'Neal en le massacrant en finale.
Prends les mêmes années, s'il te plaît.
Voilà.
Il y avait une objection de
une Alex. Dernière ligne pour essayer de voir si tu changes de ligne toi aussi. Cette année-là, pour le Shaq, il est à un bulletin de vote près d'être le seul MVP unanime de l'histoire de la NBA.
C'est beau ça.
Il y a une voix inexplicable qui va à Allen Iverson. Ils sont trompés d'une année.
Et on connaît les votants ou pas? On sait qui a voté?
Ouais.
C'est qui?
Jacques Monclar qui a voté pour Allen Iverson.
Il a parlé pour Jacques. Il n'a rien à voir dans l'histoire.
Mais il faut quand même dire un mot de la saison 2016 de Steph Curry. Tu parlais de MVP unanime. C'est le seul MVP unanime Steph Curry en 2016. Il récolte l'unanimité des voix pour être MVP.
Juste ça aurait été dur de ne pas le citer.
Juste un mot pour Olajuwon. Fred, comment tu définirais hors stat en quelques mots le style Olajuwon?
Alors, en quelques mots, un joueur offensivement incroyable, le meilleur contreur de l'histoire de la NBA, donc un sens du timing phénoménal, du footwork, des shoots dans tous les sens. En fait, il suffit regarder sur Twitter et sur YouTube, il y a justement ce résumé de cette saison 93-94 de Hakeem Olajuwon. On le voit concasser tous les pivots parce qu'il a juste tout en stock offensivement, que défensivement, c'est un monstre, c'est un mur, et qu'en plus, bah, il est magnifique à voir jouer.
Alors, donc, on aura retenu donc Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon et Michael Jordan. Un mot, bien sûr, une mention pour Stephen Curry et pour les joueurs qui ont le plus dominé sur une saison. Mais dès lors, on va tester vos connaissances sur les joueurs les plus dominants de l'histoire. C'est parti. Déjà, il faut comprendre la question. Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Kukoc.
Kukoc, absolument.
Non, mais alors. Je suis d'accord.
Jermaine
O'Neal.
Alors, messieurs, dames, c'est un quiz spécial joueur dominant. Donc, c'est simple, hein, c'est des petites statistiques ou des petites déclarations. Donc, on a Stephen, on a Alex et on a Fred. Veille, c'est parti, ça va aller vite. Qui détient le record? Ah, c'est marrant parce
Jean-Berlin.
On vient d'en parler. Le record de contre en une saison.
Bill Russell,
Dikembe
Mutombo.
Aucun de ces trois-là.
Moses Malone.
Non.
Manute Ball.
Non.
Olajuwon.
Non. Toi, tu vois le coup, tu vois
Théo Radcliffe.
Mark Eaton, excellent, Fred. Mark Eaton, quand même. 456 comptes en 82 matchs lors de la saison 84-85, soit une moyenne de 5,56 comptes par match.
Pas mal.
Incroyable.
Incroyable.
Ressemblance avec Big Fred.
Ouais,
ah, tu trouves, ouais, un peu, ouais, légèrement, ouais. Et alors, disparu dans un accident de vélo l'année dernière, je crois. Et donc, j'ai appris à cette occasion que c'était le mentor de Rudy Gobert.
Exactement. Bah, il a joué au Jazz très longtemps, Marc. Ça a été un
premier point. Niveau défensif, c'est logique.
Le premier point pour Fred, va falloir défendre.
Ça fait longtemps qu'il a pas été en tête.
Défendre ton avantage. Alors, qui a déclaré : je vois LeBron James comme un joueur complet qui domine totalement son époque. Je n'ai jamais vu ça chez personne.
Jordan.
Si ce n'est deux autres joueurs, et c'est avec l'identité de ces deux joueurs
Magic Johnson.
Trouver qui est l'auteur de cette citation. À part deux autres joueurs, Kareem Abdul-Jabbar et Bill Russell.
Magic James Johnson.
Réfléchissez. Si je vous ai donné cette phrase-là, c'est qu'il y a une raison. Parce que bon, la phrase en elle-même, elle n'est pas connue.
Jerry West.
On ne sait pas qui parle, évidemment. Mais LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell. Il manque pas quelqu'un ? Isaiah Thomas, il est malin,
eh oui,
le prédo.
Il a cité Jojo.
Exactement.
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 C'est
bravo à toi.
Un peu aujourd'hui.
Non, mais j'adore. Non, mais
Isaiah Thomas, oui, c'est une haine.
Oui.
C'est une haine vivante quand même. Il est exceptionnel, ce mec. Mais c'est vrai que donc il voit LeBron James comme le joueur le plus dominant sur notre débat là qu'on vient de faire. C'est vrai que LeBron James pourrait aussi être de la partie. Donc ça fait deux points pour Fred. Alors, une autre déclaration, mais je vous donne la date de la déclaration parce que c'est très important
1944.
Là aussi pour comprendre. C'est une déclaration de 2013. D'accord. Si je regarde les 15 dernières années, Tim Duncan a probablement été le joueur le plus régulier et le plus dominant que nous ayons eu sur cette période.
Greg Popovich.
Ça n'est ni Parker, ni Popovich. C'est ça qui est beau.
Manu Ginobili.
C'est que c'est un adversaire de Tim Duncan.
Kobe Bryant.
Et qui a ajouté, et nous verrons bien ce que ça donnera cette année.
Dirk Nowitzki.
Et alors, c'est pas Kobe, c'est pas Dirk. Qui ça peut
Kevin Garnett.
Kevin Garnett, certainement pas.
LeBron
James. Mais c'est lui le joueur le plus dominant du Basket Time. C'est Fred Bates. Incroyable, Fred Bates. Voilà, tu vois, on parle du joueur dominant. C'était là dans le quiz.
Ça me suffit. C'est
bravo.
Bon. On peut arrêter. Hein. Merci.
Bravo.
Merci, monsieur.
Bravo.
Il reste une question difficile, vraiment difficile.
On peut prendre plusieurs points ou non?
Franchement.
Non, mais laisse-moi, s'il te plaît, la victoire, là.
Alors, c'est impossible.
C'est impossible à trouver?
Non, c'est impossible de prendre plusieurs points. Mais je vous en donnais la possibilité quand même, parce que je ne pensais pas qu'il y ait une telle domination d'un des éléments dans ce quiz. Donc, il y a 3-0. Je voulais juste vous demander de me citer un des cinq joueurs de la catégorie qui se présente. Du coup, si vous en avez plus d'un, vous marquez autant de points. Mais t'inquiète pas, Fred, franchement, je pense que t'es pas en danger. Pouvez-vous me citer, donc, alors, combien pouvez-vous me citer de joueurs entrés au Hall of Fame en tant que joueur et entraîneur? Il n'y en a que 5.
Phil Jackson?
Non. Combien vous êtes capable de m'en citer?
Ah, combien?
Je voulais vous demander de m'en citer un, parce qu'il y en a un qui est très connu. Il y en a un autre qui est connu, et les trois autres sont connus. Quoi, connus des spécialistes.
Un.
Alex?
Ouais, pas mieux.
Stephen?
Non, encore, je veux dire deux, juste pour le... Ouais.
Ah, vas-y.
Paul Westphal?
Non.
Pat Riley?
Non.
Ouais, j'avais pas Riley aussi.
Non, alors celui qui est le plus connu, c'est Bill Russell. Et en fait, c'est beaucoup de joueurs qui ont été entraîneurs à Boston. Dans la grande série, il y a donc Bill Russell. Il y a également Tom Henson, 8 fois en tant que joueur, 2 fois en tant qu'entraîneur.
Henson, c'est le chanteur de Mbappé,
Après, il y a Lenny Wilkens, quand même. Vous auriez pu le citer.
Le frère de Dominique.
Bill Sharman et John Wooden. Alors, John Wooden, c'est champion NCAA, puis 10 fois champion en tant qu'entraîneur.
La plus belle fac.
Ça, je me suis dit que toi, peut-être, Alex, tu pouvais le citer, mais c'était difficile. Donc, 0 point. Donc, Fred, c'est un triomphe. Le joueur le plus dominant de Basket Time, c'est toi.
Joueur sacré de Basket Time.
Bravo à toi. À la semaine prochaine.
Saison, c'est Fred.
RMC Basket Time.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.